Deux ans de vacances, chapitre 13. Le programme d'études. Observation du dimanche. Pelote de neige. Doniphane est brillant. Grand froid. La question du combustible. Excursion à Trapp's Woods. Excursion à la baie Sluggy. Phoques et pingouins. Une exécution publique. À partir de ce mois de mai, la période hivernale s'était définitivement établie dans les parages de l'île Sherman. Quelle en serait sa durée ? 5 mois au moins, si l'île se trouvait plus haut en latitude que la Nouvelle-Zélande. Aussi, les précautions allaient être prises par Gordon de manière à se garder contre les redoutables éventualités d'un long hiver. En tout cas, voici ce que le jeune Américain avait déjà noté parmi ses observations météorologiques. L'hiver n'avait commencé qu'avec le mois de mai, c'est-à-dire 2 mois avant le juillet de la zone australe, qui correspond au janvier de la zone boréale. On pouvait en conclure qu'il finirait 2 mois après, par conséquent vers le milieu de septembre. Toutefois, en dehors de cette période, il faudrait encore compter avec les tempêtes qui sont si fréquentes pendant l'équinoxe. Ainsi, il était probable que les jeunes colons seraient confinés à French Den jusqu'au premier jour d'octobre sans pouvoir entreprendre aucune longue excursion à travers ou autour de l'île Sherman. Pour organiser la vie intérieure dans les meilleures conditions, Gordon se mit en devoir d'élaborer un programme d'occupation quotidienne. Il va de soi que les pratiques du fascisme, dont il a été déjà question à propos de la pension de Sherman, n'eussent pas été acceptables sur l'île de ce nom. Tous les efforts de Gordon tendraient à ce que les jeunes garçons s'accoutumassent à l'idée qu'ils étaient presque des hommes afin d'agir en hommes. Il n'y aurait donc pas de fags à French Den, ce qui signifie que les plus jeunes ne seraient pas astreints à servir les plus âgés. Mais, hormis cela, on respecterait les traditions. Ces traditions qui sont, ainsi que l'a fait remarquer l'auteur de la vie de collège en Angleterre, la raison majeure des écoles anglaises. Il y eut dans ce programme la part des petits et la part des grands, forcément très inégales. En effet, la bibliothèque de French Den, ne contenant qu'un nombre restreint de livres de sciences, en dehors des livres de voyage, ces derniers ne pourraient poursuivre leurs études que dans une certaine mesure. Il est vrai, les difficultés de l'existence, la lutte à soutenir pour subvenir à ses besoins, la nécessité d'exercer son jugement ou son imagination en présence d'éventualités de toutes sortes, cela leur apprendrait sérieusement la vie. Dès lors, naturellement désignés pour être les éducateurs de leurs jeunes camarades, ce leur serait une obligation de les instruire à leur tour. Toutefois, loin de surcharger les petits d'un travail au-dessus de leur âge, on s'appliquerait à saisir toutes les occasions d'exercer leur corps non moins que leur intelligence. Lorsque le temps le permettrait, à la condition qu'ils fussent chaudement vêtus, ils seraient tenus à sortir, à courir en plein air et même à travailler manuellement dans la limite des forces de chacun. En somme, ce programme fut rédigé en s'inspirant de ces principes qui sont la base de l'éducation anglo-saxonne. Toutes les fois qu'une chose vous effraie, faites-la. Ne perdez jamais l'occasion de faire un effort possible. Ne méprisez aucune fatigue, car il n'y en a pas d'inutile. À mettre ces préceptes en pratique, le corps devient solide, l'âme aussi. Voici ce qui fut convenu, après avoir été soumis à l'approbation de la petite colonie. 2 heures le matin, 2 heures le soir, il y aurait travail en commun dans le hall. À tour de rôle, Brillant, Doniphane, Cross, Baxter, de la 5e division, Wilcox et Webb de la 4e, feraient la classe à leurs camarades des 3e, 2e et 1ère division. Ils leur enseigneraient mathématiques, géographie, histoire, en s'aidant des quelques ouvrages de la bibliothèque ainsi que de leurs connaissances antérieures. Ce serait pour eux l'occasion de ne point oublier ce qu'ils savaient déjà. De plus, deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi, il y aurait une conférence, c'est-à-dire qu'un sujet de science, d'histoire ou même d'actualité se rapportant aux événements journaliers serait mis à l'ordre du jour. Les grands se feraient inscrire pour ou contre et ils discuteraient autant pour l'instruction que pour l'agrément général. Gordon, en sa qualité de chef de la colonie, tendrait la main à ce que le programme fût observé et ne subit de modification que dans le cas d'éventualités nouvelles. Et d'abord, une mesure fut prise, qui concernait la durée du temps. On avait le calendrier du Sloughi, mais il fallait en effacer régulièrement chaque jour écoulé. On avait les montres du bord, mais il fallait qu'elles fussent remontées régulièrement afin de donner l'heure exacte. Deux des grands furent chargés de ce service, Wilcox pour les montres, Baxter pour le calendrier, et l'on pouvait compter sur leur bon soin. Quant au baromètre et au thermomètre, ce fut à Webb qu'incomba la tâche de relever leurs indications quotidiennes. Autre décision qui fut également prise, c'est qu'il serait tenu un journal de tout ce qui s'était passé et de tout ce qui se passerait pendant le séjour sur l'île German. Baxter s'offrit pour ce travail et, grâce à lui, le journal de French Den allait être fait avec une minutieuse exactitude. Une besogne non moins importante et qui ne devait souffrir aucun retard, c'était le lessivage du linge, pour lequel, heureusement, le savon ne manquait pas. Et Dieu sait si, malgré les recommandations de Gordon, les petits se salissaient quand ils jouaient sur Sport Terrace ou pêchaient sur les bords du Rio. Que de fois à ce sujet avaient-ils été grondés et menacés d'être punis. Il y avait donc là un ouvrage auquel Moko s'entendait parfaitement. Mais à lui seul, il n'aurait pu y suffire. Et malgré leur peu de goût pour cette besogne, les grands furent astreints à lui venir en aide afin de tenir en bon état la lingerie de French Den. Le lendemain était précisément un dimanche, et l'on sait avec quel rigorisme les dimanches sont observés en Angleterre et en Amérique. La vie est comme suspendue dans les villes, bourgades et villages. Ce jour-là, a-t-on pu dire, toute distraction, tout amusement sont interdits par l'usage. Non seulement il faut s'ennuyer, mais il faut en avoir l'air. Et cette règle est aussi strictement imposée aux enfants qu'aux grandes personnes. Les traditions, toujours les fameuses traditions. Cependant, à l'île German, il fut convenu qu'on se relâcherait un peu de cette sévérité, et même, ce dimanche-là, les jeunes colons se permirent une excursion sur les bords du Family Lake. Mais comme il faisait extrêmement froid, après une promenade de 2 heures, suivie d'une lutte de vitesse, à laquelle les petits prirent part sur la pelouse de Sport Terrace, tous furent heureux de retrouver dans le hall une bonne température et dans Store Room un dîner bien chaud dont le menu avait été particulièrement soigné par l'habile maître Coq de French Den. La soirée se termina par un concert, dans lequel l'accordéon de Garnett tint lieu d'orchestre, tandis que les autres chantaient plus ou moins faux avec une conviction toute saxonne. Le seul de ces enfants qui eut une assez jolie voix, c'était Jacques. Mais avec son inexplicable disposition d'esprit, il ne prenait plus part aux distractions de ses camarades, et en cette occasion, bien qu'on l'en priât, il refusa de dire une de ses chansons d'enfant dont il était si prodigue à la pension German. Ce dimanche, qui avait débuté par une petite allocution du révérend Gordon, ainsi que disait Service, s'acheva par une prière faite en commun. Vers 10 heures, tout le monde dormait d'un profond sommeil sous la garde de Fan, auquel on pouvait se fier en cas d'approche suspecte. Pendant le mois de juin, le froid alla toujours croissant. Webb constata que le baromètre se tenait en moyenne au-dessus de 27 pouces, tandis que le thermomètre centigrade marquait jusqu'à 10 ou 12 degrés au-dessous du point de congélation. Dès que le vent, qui soufflait du sud, inclinait vers l'ouest, la température se relevait un peu, et les environs de French Den se couvraient d'une neige épaisse. Aussi, les jeunes colons se livrèrent-ils quelques-unes de ces batailles à coups de pelote, plus ou moins comprimées, qui sont si à la mode en Angleterre. Il y eut bien quelques têtes légèrement endommagées, et même, certains jours, un des plus maltraités fut précisément Jacques, qui, pourtant, n'assistait à ces jeux que comme spectateur. Une pelote, lancée trop vigoureusement par Cross, l'atteignit rudement, quoiqu'elle ne fût point à son adresse, et un cri de douleur lui échappa. « Je ne l'ai pas fait exprès, » dit Cross, ce qui est la réponse habituelle des maladroits. « Sans doute, » répliqua Brillant, que le cri de son frère venait d'attirer sur le théâtre de la bataille. « Néanmoins, tu as tort de jeter ta pelote si fort. »« Aussi, pourquoi Jacques s'est-il trouvé là ?» reprit Cross, « puisqu'il ne veut pas jouer. »« Que de paroles !» s'écria Doniphan, « et pour un méchant bobo ?»« Soit, ce n'est pas grave, » répondit Brillant, sentant bien que Doniphan ne cherchait que l'occasion d'intervenir dans la discussion. « Seulement, je prierai Cross de ne pas recommencer. » « Et de quoi le prieras-tu ? » riposta Doniphan d'un ton railleur, « puisqu'il ne l'a pas fait exprès. »« Je ne sais pourquoi tu te mêles de cela, Doniphan, » reprit Brillant. « Cela ne regarde que Cross et moi. »« Et cela me regarde aussi, Brillant, puisque tu le prends sur ce ton, » répondit Doniphan. « Comme tu voudras et quand tu voudras, » répliqua Brillant, qui s'était croisé les bras. « Tout de suite !» s'écria Doniphan. En ce moment, Gordon arriva, et fort à propos pour empêcher cette querelle de finir par des coups. Il donna tort à Doniphan, d'ailleurs. Celui-ci dut se soumettre, et, tout maugréant, rentra à French Den. Mais il était à craindre que quelque autre incident mît les deux rivaux aux prises. La neige ne cessa de tomber pendant 48 heures. Pour amuser les petits, Service et Garnett confectionnèrent un grand bonhomme avec une grosse tête, un nez énorme, une bouche démesurée, quelque chose comme un croque-mitaine. Et on doit l'avouer, si pendant le jour, Doll et Costard s'enhardissaient jusqu'à lui lancer des pelotes, il ne le regardait point sans effroi lorsque l'obscurité lui donnait des dimensions gigantesques. « Oh, les poltrons !» s'écriaient alors Iverson et Jenkins, qui faisaient les braves sans être beaucoup plus rassurés que leurs jeunes camarades. Vers la fin de juin, il fallut renoncer à ses amusements. La neige, entassée jusqu'à 3 ou 4 pieds d'épaisseur, rendait la marche presque impossible. S'aventurer de quelques centaines de pas seulement hors de French Den, c'eût été courir le risque de n'y pouvoir revenir. Les jeunes colons furent donc claquemurés durant 15 jours, jusqu'au 9 juillet. Les études n'en souffrirent pas, au contraire. Le programme quotidien était strictement observé. Les conférences furent faites au jour fixé. Tous y prirent un véritable plaisir et, ce qui ne surprendra pas, Doniphan, avec sa facilité de parole, son instruction très avancée déjà, tint le premier rang. Mais pourquoi s'en montrait-il si fier ? Cet orgueil gâtait toutes ses brillantes qualités. Bien que les heures de récréation dussent alors se passer dans le hall, la santé générale n'en périclita pas grâce à l'aération qui se faisait d'une chambre à l'autre à travers le couloir. Cette question d'hygiène ne laissait pas d'être des plus importantes. Que l'un de ses enfants tombât malade, comment pourrait-on lui donner les soins nécessaires ? Heureusement, ils en furent quittes pour quelques rhumes ou maux de gorge que le repos et les boissons chaudes firent promptement disparaître. C'est alors qu'il y eut lieu de se préoccuper de résoudre une autre question. Ordinairement, l'eau, nécessaire aux besoins de French Den, était puisée dans le rio, à mer basse, afin qu'elle ne fût point saumâtre. Mais lorsque la surface du rio serait entièrement congelée, il deviendrait impossible d'opérer de la sorte. Gordon s'entretint donc avec Baxter, son ingénieur ordinaire, des mesures qu'il conviendrait de prendre. Baxter, après réflexion, proposa d'établir une conduite à quelques pieds sous la berge afin qu'elle ne gelât point, conduite qui amènerait l'eau du rio dans Storeroom. C'était là un travail difficile, dont Baxter ne se fût jamais tiré s'il n'avait eu à sa disposition un des tuyaux de plomb qui servait à l'alimentation des toilettes à bord du Sloggy. Enfin, après de nombreux essais, le service de l'eau fut assuré à l'intérieur du storeroom. Quant à l'éclairage, il y avait encore assez d'huile pour les lampes des fanaux. Mais après l'hiver, il serait nécessaire de s'en approvisionner ou tout au moins de fabriquer des chandelles avec les graisses que Moko mettait en réserve. Ce qui donna encore quelques soucis pendant cette période, ce fut de pourvoir à l'alimentation de la petite colonie, car la chasse et la pêche ne fournissaient plus leur tribut habituel. Sans doute, quelques animaux, poussés par la faim, vinrent plus d'une fois rôder sur Spot Terrace. Mais ce n'étaient que des chacals que Doniphan et Cross se contentaient d'écarter à coups de fusil. Un jour même, ils arrivèrent en troupe, une vingtaine, et on dut barricader solidement les portes du hall et du storeroom. Une invasion de ces carnassiers, rendue féroce par les privations, eût été redoutable. Toutefois, Fan les ayant signalés à temps, ils ne parvinrent point à forcer l'entrée de French Den. Dans ces conditions fâcheuses, Moko fut obligé de prendre quelque peu sur les provisions du yacht que l'on s'appliquait à ménager le plus possible. Gordon ne donnait pas volontiers l'autorisation d'en disposer, et c'était avec chagrin qu'il voyait s'allonger sur son carnet la colonne des dépenses quand celle des recettes restait stationnaire. Cependant, comme il y avait un assez gros stock de canards et d'outardes qui avaient été hermétiquement renfermés dans des barils après une demi-cuisson, Moko put l'utiliser ainsi qu'une certaine quantité de saumon conservé dans la saumure. Or, il ne faut point l'oublier, French Den avait 15 bouches à nourrir et des appétits de 8 à 14 ans à satisfaire. Néanmoins, durant cet hiver, on ne fut pas tout à fait privé de viande fraîche. Wilcox, très entendu pour tout ce qui concernait l'installation des engins de chasse, avait dressé des pièges sur la berge. Ce n'étaient que de simples trappes, retenues par des morceaux de bois en forme de quatre, mais auxquels le menu gibier se laissait quelquefois prendre. Avec l'aide de ses camarades, Wilcox établit aussi des fleurons sur le bord du rio, en employant à cet usage les filets de pêche du Sloggy, montés sur de hautes perches. Dans les mailles de ces longues toiles d'araignées, les oiseaux des South Moors donnaient en grand nombre lorsqu'ils passaient d'une rive à l'autre. Si la plupart purent se dégager de ces mailles trop petites pour une pêche aérienne, il y eut des jours où l'on en prit assez pour subvenir aux deux repas réglementaires. Par exemple, ce fut le nandou qui donna beaucoup d'embarras à nourrir. Il faut bien l'avouer, l'apprivoisement de ce sauvage animal ne faisait aucun progrès, quoique pût dire Service, spécialement chargé de son éducation. « Quel coursier ce sera !» répétait-il souvent, bien qu'on ne vît pas trop comment il parviendrait à le monter. En attendant, le nandou n'étant point un carnassier, Service était forcé d'aller chercher sa provision quotidienne d'herbes et de racines sous 2 ou 3 pieds de neige. Mais que n'aurait-il pas fait pour procurer une bonne nourriture à sa bête favorite? Si le nandou maigrit un peu pendant cet interminable hiver, ce ne fut point la faute de son fidèle gardien, et il y avait tout lieu d'espérer que, le printemps venu, il reprendrait son embonpoint normal. Le 9 juillet, de grand matin, Brillant ayant mis le pied hors de French Den, constata que le vent venait de passer subitement au sud. Le froid était devenu tellement vif que Brillant dut rentrer en hâte dans le hall où il fit connaître à Gordon cette modification de la température. « C'était à craindre, répondit Gordon, et je ne serais pas étonné que nous eussions à supporter encore quelques mois d'un hiver très rigoureux. Cela démontre bien, ajouta Brillant, que le Sloggy a été entraîné plus au sud que nous le supposions. Sans doute, dit Gordon, et pourtant notre atlas ne porte aucune île sur la limite de la mer Antarctique. C'est inexplicable, Gordon, et vraiment, je ne sais trop de quel côté nous pourrions prendre direction si nous parvenions à quitter l'île Chairman. Quitter notre île ? S'écria Gordon. Tu y penses donc toujours, Brillant ? Toujours, Gordon. Si nous pouvions construire une embarcation qui tiendrait la mer tant bien que mal, je n'hésiterais pas à me lancer à la découverte. Bon, bon, répliqua Gordon, rien ne presse. Attendons au moins que nous ayons organisé notre petite colonie. Eh, mon brave Gordon, répondit Brillant, tu oublies que là-bas, nous avons des familles.
Certainement, certainement, Brillant. Mais enfin, nous ne sommes pas trop malheureuses ici.
Cela marche. Et même, je me demande ce qui nous manque.
Bien des choses, Gordon, répondit Brillant, qui trouva opportun de ne point prolonger la conversation à ce sujet.
Tiens, par exemple, nous n'avons presque plus de combustible.
Oh, toutes les forêts de l'île ne sont pas encore brûlées.
Non, Gordon, mais il n'est que temps de refaire notre provision de bois, car elle touche à sa fin.
Aujourd'hui, soit, répondit Gordon. Voyons ce que marque le thermomètre.
Le thermomètre, placé dans Store Room, n'indiquait que 5 degrés au-dessus de zéro, bien que le fourneau fût en pleine activité. Mais lorsqu'il eut été exposé contre la paroi extérieure, il ne tarda pas à marquer 17 degrés au-dessous de glace. C'était un froid intense et qui s'accroîtrait certainement si le temps restait clair et sec pendant quelques semaines. Déjà même, malgré le ronflement des deux poêles du hall et du fourneau de la cuisine, la température s'abaissait sensiblement à l'intérieur de French Den. Vers 9 heures, après le premier déjeuner, il fut décidé que l'on se rendrait à Trapp's Woods afin d'en rapporter tout un chargement de bois. Lorsque l'atmosphère est calme, les plus basses températures peuvent être supportées impunément. Ce qui est particulièrement douloureux, c'est l'âpre bise qui vous mord aux mains et au visage, et il est bien difficile de s'en préserver. Heureusement, ce jour-là, le vent était extrêmement faible, le ciel d'une pureté parfaite, comme si l'air eût été gelé. Aussi, à la place de cette neige molle dans laquelle, la veille encore, on enfonçait jusqu'à la taille, le pied allait-il fouler un sol d'une dureté métallique. Dès lors, à la condition d'assurer son pas, on pourrait marcher, ainsi qu'on l'eût fait à la surface du Family Lake ou du Rio Zealand, qui était entièrement congelé. Avec quelques paires de ces raquettes dont se servent les indigènes des régions polaires, ou même avec un traîneau attelé de chiens ou de rennes, le lac aurait pu être parcouru dans toute son étendue, du sud au nord, en quelques heures. Mais pour le moment, il ne s'agissait point d'une si longue expédition. Aller à la forêt voisine et y refaire la provision de combustible, voilà ce qui était de nécessité immédiate. Toutefois, le transport à French Den d'une quantité suffisante de bois ne laisserait pas d'être un travail pénible puisque ce transport ne pouvait être effectué qu'à bras ou à dos. C'est alors que Moko eut une bonne idée et l'on se hâta de la mettre à exécution en attendant qu'un véhicule quelconque pût être établi avec les planches du yacht. Cette grande table de storeroom, solidement bâtie, qui mesurait 12 pieds de long sur 4 de large, est-ce qu'il ne suffirait pas de la renverser les pieds en l'air et de la traîner à la surface de la couche de neige glacée? Oui, évidemment, et c'est ce qui fut fait. Puis, 4 des grands s'étant attelés par des cordes à ce véhicule un peu primitif, on partit, dès 8 heures, dans la direction de Trapp's Woods. Les petits, nez rouges et joues hâlées, gambadaient en avant comme de jeunes chiens et Fan leur donnait l'exemple. Parfois aussi, ils grimpaient sur la table, non sans disputes et gourmades, rien que pour le plaisir, au risque de quelque chute qui ne serait jamais bien grave. Leurs cris éclataient avec une extraordinaire intensité au milieu de cette atmosphère froide et sèche. En vérité, c'était réjouissant de voir cette petite colonie en si belle humeur et si bonne santé. Tout était blanc à perte de vue entre Oakland Hill et Family Lake. Les arbres, avec leurs ramures de givre, leurs branches chargées de cristaux étincelants, se massaient au loin comme à l'arrière-plan d'un décor féerique. À la surface du lac, les oiseaux volaient par bandes jusqu'au revers de la falaise. Doniphan et Cross n'avaient point oublié d'emporter leurs fusils. Sage précaution, car on vit des empreintes suspectes appartenant à des animaux autres que les chacals, les cougars ou les jaguars. Ce sont peut-être de ces chats sauvages qu'on nomme paperos, dit Gordon, et qui ne sont pas moins redoutables.
Oh, si ce ne sont que des chats, répondit Costard en haussant les épaules.
Eh, les tigres sont aussi des chats, répliqua Jenkins.
Est-ce vrai, Service? Demanda Costard, que ces chats-là sont méchants.
Très vrai, répliqua Service, et ils croquent les enfants comme des souris.
Réponse qui ne laissa pas d'inquiéter Costard.
Le demi-mille entre French Den et Trapp's Woods fut rapidement franchi et les jeunes bûcherons se mirent à la besogne. Leur hache ne s'attaqua qu'aux arbres d'une certaine grosseur qui furent dégagés des menues branches afin de s'approvisionner, non de ces fagots qui flambent en un instant, mais de bûches qui pourraient alimenter convenablement le fourneau et les poêles. Puis la table traîneau en reçut une lourde charge. Mais elle glissait si aisément, et tous tiraient de si bon cœur sur le sol durci, qu'avant midi, elle avait pu faire deux voyages. Après le déjeuner, on reprit le travail, qui ne fut suspendu que vers 4 heures, lorsque le jour vint à baisser. La fatigue était grande, mais comme il n'y avait nulle nécessité de faire les choses avec excès, Gordon remit la besogne au lendemain. Or, quand Gordon ordonnait, il n'y avait plus qu'à obéir. D'ailleurs, dès le retour à French Den, on s'occupa de scier ses bûches, de les fendre, de les emmagasiner, et cela dura jusqu'au moment de se coucher. Pendant 6 jours, ce charroi fut continué sans relâche, ce qui assura du combustible pour un laps de plusieurs semaines. Il va de soi que toute cette provision n'avait pu trouver place dans Store Room, mais il n'y avait aucun inconvénient à ce qu'elle restât exposée en plein air au pied du contrefort. Le 15 juillet, suivant le calendrier, ce jour-là, c'était la Saint-Swithin. Or, en Angleterre, la Saint-Swithin correspond, comme réputation, à la Saint-Médard en France.
« Alors, dit Brillant, s'il pleut aujourd'hui, nous allons avoir de la pluie pendant 40 jours. »«
Ma foi, répondit Service, voilà qui importe peu, puisque nous sommes dans la mauvaise saison. »
Ah, si c'était l'été!
Et en vérité, les habitants de l'hémisphère austral n'ont guère à s'inquiéter de l'influence que peuvent avoir Saint-Médard ou Saint-Swithin, qui sont des saints divers pour les pays d'antipodes. Cependant, la pluie ne persista pas. Les vents revinrent au sud-est et il y eut encore de tels froids que Gordon ne permit plus aux petits de mettre le pied dehors. En effet, au milieu de la première semaine d'août, la colonne thermométrique s'abaissa jusqu'à 27 degrés au-dessous de zéro. Pour peu que l'on s'exposât à l'air extérieur, la laine se condensait en neige. La main ne pouvait saisir un objet de métal qu'elle ne ressentît une vive douleur, analogue aux brûlures. Les plus minutieuses précautions durent être prises pour que la température interne fût maintenue à un degré suffisant. Il y eut 15 jours très pénibles à passer. Tous souffraient plus ou moins du manque d'exercice. Brillant ne voyait pas sans inquiétude les mines pâles des petits dont les bonnes couleurs avaient disparu. Cependant, grâce aux boissons chaudes qui ne manquaient pas, et à part un certain nombre de rhumes ou de bronchites inévitables, les jeunes colons franchirent sans dommage cette dangereuse période. Vers le 16 août, l'état de l'atmosphère tendit à se modifier avec le vent qui s'établit dans l'ouest. Aussi, le thermomètre se releva-t-il à 12 degrés au-dessous de glace, température supportable étant donné le calme de l'air. Doniphan, Brillant, Service, Wilcox et Baxter eurent alors la pensée de faire une excursion jusqu'à Sluggy Bay. En partant de grand matin, ils pouvaient être de retour le soir même. Il s'agissait de reconnaître si la côte n'était point fréquentée par un grand nombre de ces amphibies, hôtes habituels des régions antarctiques et dont on avait déjà vu quelques échantillons à l'époque de l'échouage. En même temps, on remplacerait le pavillon dont il ne devait plus rester que des lambeaux après les bourrasques de l'hiver. Et puis, sur le conseil de Brillant, on clouerait sur le mât des signaux une planchette indiquant la situation de French Den pour le cas où quelques marins ayant aperçu le pavillon débarquerait sur la grève. Gordon donna son assentiment, mais en recommandant bien d'être de retour avant la nuit
et la petite troupe partit dès le matin du 19 août, quoiqu'il ne fît point jour encore. Le ciel était pur, et la lune l'éclairait des pâles rayons de son dernier quartier. 6 milles à faire jusqu'à la baie, ce n'était pas pour embarrasser des jambes bien reposées. Ce trajet fut enlevé rapidement. La fondrière de Bob Woods étant glacée, il n'y eut point à la contourner, ce qui abrégea le parcours. Aussi, avant 9 heures du matin, Doniphan et ses camarades débouchaient-ils sur la grève. « En voilà une bande de volatiles !» s'écria Wilcox, et il montrait, rangés sur les récifs, quelques milliers d'oiseaux qui ressemblaient à de gros canards, avec leur bec allongé comme une coquille de moule et leurs cris aussi perçants que désagréables. « On dirait de petits soldats que leur général va passer en revue, » dit Service. « Ce ne sont que des pingouins, » répondit Baxter, « et ils ne valent pas un coup de fusil. » Ces stupides volatiles, qui se tenaient dans une position presque verticale, due à leurs pattes placées très en arrière, ne songèrent même pas à s'enfuir, et on aurait pu les tuer à coups de bâton. Peut-être Doniphan eut-il envie de se livrer à ce carnage inutile. Mais Brillant ayant eu la prudence de ne point s'y opposer, les pingouins furent laissés en repos. D'ailleurs, si ces oiseaux ne pouvaient être d'aucun usage, il y avait là nombre d'autres animaux dont la graisse servirait à l'éclairage de French Den pendant le prochain hiver. C'étaient des phoques, de cette espèce dite phoques à trompe, qui prenaient leurs ébats sur les brisants, recouverts alors d'une épaisse couche de glace. Mais pour en abattre quelques-uns, il aurait fallu leur couper la retraite du côté des récifs. Or, dès que Brillant et ses camarades s'approchèrent, ils s'enfuirent en faisant des gambades extraordinaires et disparurent sous les eaux. Il y aurait donc lieu d'organiser plus tard une expédition spéciale pour la capture de ces amphibies. Après avoir déjeuné frugalement des quelques provisions qu'ils avaient emportées, les jeunes garçons vinrent observer la baie dans toute son étendue. Une nappe uniformément blanche s'étendait depuis l'embouchure du rio Zealand jusqu'au promontoire de False Sea Point. À part les pingouins et les oiseaux de mer, tels que pétrels, mouettes et goélands, il semblait que les autres volatiles eussent abandonné la grève pour aller à l'intérieur de l'île chercher de quoi suffire à leur nourriture. 2 ou 3 pieds de neige s'étendaient sur la plage et ce qui restait des débris du schooner avait disparu sous cette couche épaisse. Les relais de marée, varechs et goémons, arrêtés en deçà des brisants, indiquaient que Sloughi Bay n'avait pas été envahie par les fortes marées d'équinoxe. Quant à la mer, elle était toujours déserte jusqu'à l'extrême limite de cet horizon que Brillant n'avait pas revu depuis 3 longs mois. Et au-delà, à des centaines de milles, il y avait cette Nouvelle-Zélande qu'il ne désespérait pas de revoir un jour. Baxter s'occupa alors de rehisser un pavillon neuf qu'il avait apporté et de clouer la planchette donnant la situation de French Den à 6 milles en remontant le cours du rio. Puis, vers 1 heure après-midi, on reprit la rive gauche. Chemin faisant, Doniphan tua une couple de pilets et une autre de vanneaux qui voletaient à la surface de la rivière. Et vers 4 heures, au moment où le jour s'assombrissait, ses camarades et lui arrivaient à French Den. Là, Gordon fut mis au courant de ce qui s'était passé, et puisque de nombreux phoques fréquentaient Sloughi Bay, on leur donnerait la chasse dès que le temps le permettrait. En effet, la mauvaise saison allait bientôt finir. Pendant la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre, le vent de mer reprit le dessus. De fortes grenasses amenèrent un relèvement très rapide de la température. La neige ne tarda pas à se dissoudre et la surface du lac se rompit avec un fracas assourdissant. Ceux des glaçons qui ne fondirent pas sur place s'engagèrent dans le courant du rio en s'amoncelant les uns sur les autres et il se fit une embâcle qui ne se dégagea complètement que vers le 10 septembre. Ainsi s'était écoulé cet hiver. Grâce aux précautions prises, la petite colonie n'avait pas eu trop à souffrir. Tous s'étaient maintenus en bonne santé, et les études ayant été suivies avec zèle, Gordon n'avait guère eu à sévir contre des récalcitrants. Un jour, cependant, il avait dû châtier Dole, dont la conduite nécessitait une punition exemplaire. Bien des fois, l'entêté avait refusé de faire son devoir et Gordon l'avait réprimandé sans qu'il voulût tenir compte de ses observations. S'il ne fut pas mis au pain et à l'eau, ce qui n'entre point dans le système des écoles anglo-saxonnes, il fut condamné à recevoir le fouet. Les jeunes Anglais, on l'a fait observer, n'éprouvent pas la répugnance que des Français ne manqueraient pas de ressentir sans aucun doute pour ce genre de châtiment. Et pourtant, à cette occasion, Briand aurait protesté contre cette façon de sévir s'il n'eût dû respecter les décisions de Gordon. D'ailleurs, là où un écolier français serait honteux, l'écolier anglais n'aurait honte que de paraître redouter une correction corporelle. Dole reçut donc les quelques coups de verge que lui appliqua Wilcox, désigné par le sort pour ses fonctions d'exécuteur public, et cela fut d'un tel exemple que le cas ne se reproduisit plus. Au 10 septembre, il y avait 6 mois que le Sloogie s'était perdu sur les récifs de l'île Germain.